Page de couverture. Saint-Cyrmac numéro 8, octobre 2023. Page 16-18. Hommage à Jacques Chirac. Page 2. Au sommaire de ce nouveau numéro. Cadre de vie. Page 4 et 5. L'espace Jacques Chirac mis en lumière. Page 6 et 7. Poursuite de l'aménagement des cours-jardins. Page 8 et 9. Actualité métropolitaine. Page 10 et 11. Le rôle de l'architecte des bâtiments de France. Page 12. Lutter efficacement contre le frelon asiatique. Page 13. Accueillir les oiseaux en ville. Page 14 et 15. Les travaux de proximité. Grand angle. Page 16 à 18. La mémoire de Jacques Chirac honoré. Proximité. Page 19. École. Les nouveautés de la rentrée. Page 20 et 21. Retour sur un été animé. Page 22. La marche de Lali contre le diabète. Page 23. Les actualités du service petite enfance. Page 24 et 25. Saint-Cyr entre en jeu. Page 26 et 27. Décryptage. Circuler en toute sécurité. Page 28. Le théâtre s'invite au collège. Page 29. Partenariat avec Culture du Cœur. Page 30. Marie-Andrée Fourest. Cap sur le changement. Focus. Page 31. Nouveaux acteurs économiques. Page 32-33. Croc. Prendre le temps de partager. Page 34. Redécouvrir Saint-Cyr à pied ou à vélo. Page 35. Portrait en roue libre. Page 36. Hommage. Page 37. Regard d'élu. Page 38 et 39. En image. Page 3. Édito. Il était pour moi évident de rendre hommage à Jacques Chirac en donnant son nom à un bâtiment emblématique de la ville. Philippe Briand, maire de Saint-Cyr-sur-Loire, vice-président de Tours Métropole Val-de-Loire. Qu'a représenté l'inauguration de l'espace Jacques Chirac? Ce moment était pour moi très important. Un moyen de pouvoir, en présence de sa fille Claude, rendre un hommage sincère, profond et émouvant à un grand homme qui a compté pour la France, un homme doté d'une profonde humanité, Monsieur le Président Jacques Chirac. Je souhaitais que ce soit un moment joyeux et très solennel en mémoire de l'ancien chef d'État qui a aussi beaucoup compté pour moi et pour tous les compagnons présents le 30 septembre, à savoir mes amis François Baroin, Christian Jacob, Frédéric de Saint-Cernin, Renaud Muselier et tous les autres. Comme je l'ai dit ce matin-là, il a fait de nous ce que nous sommes devenus. Il a fait de moi ce que je suis. Merci à vous, Président. Merci à toi, cher Jacques Chirac. Il est vrai que nous étions une poignée à avoir décidé de le suivre en 1993, le soutenir pour la présidentielle de 1995. Nous avons énormément de souvenirs ensemble. Avec le conseil municipal, nous voulions que Saint-Cyr-sur-Loire raconte une partie de cette belle histoire, une partie de l'histoire de France, et qu'elle soit gravée de manière indélébile. Cette journée restera dans les mémoires, et je remercie les Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens d'avoir participé à ce grand moment. Les nombreux témoignages reçus me confortent dans ce devoir de mémoire. Saint-Cyr-sur-Loire obtient à nouveau la fleur d'or, une nouvelle fierté pour la ville. Cette récompense est le résultat d'une politique pensée et menée depuis déjà près de 40 années. Notre stratégie de développement et d'aménagement est marquée par une volonté affirmée de protection des espaces naturels associée à un développement économique maîtrisé. Avec le conseil municipal, nous avons projeté cette ville en grand, avec de belles avenues, permettant d'avoir des trottoirs pour les piétons, des voies cyclables, des parkings dès que cela était possible, des rues larges et arborées, un éclairage public à LED moins consommateur d'énergie, tout en développant l'installation de mâts photovoltaïques. Cette ville, reconnue pour sa qualité de vie, est aussi une ville dynamique qui bouge et se transforme en douceur. Les bâtisses tourangelles du XVIe siècle s'intègrent harmonieusement aux zones pavillonnaires et aux logements collectifs. Je ne souhaite pas de hauts immeubles et préfère privilégier de beaux collectifs qualitatifs au maximum de 3 étages, avec des espaces arborés, en retrait des rues, pour plus de tranquillité. Les parcs de la ville sont ouverts pour permettre à chacune et à chacun de se promener et de profiter de ces espaces. Notre ville est très verte, fleurie, avec un patrimoine végétal riche. 69 arbres protégés, un fleurissement subtil qui mélange des plantes annuelles, vivaces, arbustes et plantes bulbeuses. Sans oublier la végétalisation des cours d'école, les aménagements du coteau de la mairie, la maison de quartier Denise Duplay. Cet équilibre, gage d'un environnement de qualité, est le fruit d'un urbanisme maîtrisé. Les membres du jury n'ont pas manqué de souligner la qualité de la gestion de ces espaces. Seules 6 communes en France ont obtenu cette récompense d'excellence, et je tiens ici à y associer l'ensemble des services municipaux qui, chacun dans leur domaine, concourent au rayonnement de notre ville au quotidien. Pages 4 et 5. Cadre de vie. Urbanisme. Mise en lumière des bâtiments publics. À l'instar de nombreux autres équipements publics, l'espace Jacques Chirac est mis en lumière par un éclairage LED peu gourmand en énergie. Il valorise toute l'architecture du bâtiment, ses volumes et son esthétique. Pages 6 et 7. Cadre de vie. Poursuite de l'aménagement des cours jardins. Tout l'été, les travaux ont été menés tambour battant dans les cours du groupe scolaire Roland Enguerrand Charles Perrault. À la rentrée, les enfants ont découvert leur tout nouvel espace récréatif. Il faut attendre que les végétaux prennent toute leur place et que d'autres soient plantés d'ici à la fin de l'année, mais le résultat est déjà visible. La minéralité des lieux disparaît au profit du végétal. Conjuguer environnement et convivialité. Si l'objectif premier est environnemental, lutte contre les îlots de chaleur, favorisation de la biodiversité et du cycle de l'eau, en plantant largement, en installant des pergolas fleuries, en utilisant des matériaux perméables, en posant des revêtements clairs. L'objectif second est de favoriser le lien social aussi bien entre enfants, zones de jeu, vaste jardin pédagogique, banc de l'amitié, cabane en osier, qu'entre parents, avec l'aménagement d'une placette d'accueil et d'information conviviale. Chloé témoigne. Nous, ce qu'on préfère, c'est le jardin qui a été ouvert avec les cabanes, les bancs et les tables. On est à l'ombre et c'est tranquille. Fin des travaux en janvier 2024. Les vacances de la Toussaint permettront la pose des pergolas, de jeux, l'aménagement du petit chemin situé à l'est, reliant la rue Roland-Enguerrand à la rue Édouard-Branly, et de la placette. Dernière ligne droite pendant les vacances de Noël, avec la plantation de nombreux arbres et arbustes. Un travail pédagogique sera mené avec les enfants, puisque eux aussi concourront à la végétalisation de leur cours de récréation. De nouvelles zones ludiques ont été créées et des arbres plantés. Les enfants ont rapidement investi les cabanes en osier et le grand jardin. Le saviez-vous, les circuits courts ont été privilégiés pour ce qui concerne les cabanes végétales en osier. Elles ont été tressées à la vannerie de Villaines-les-Rochers. Son directeur, Daniel Martin, est meilleur ouvrier de France. Parole d'élu. Christian Vrin, maire adjoint en charge de l'environnement, de l'embellissement de la ville et des moyens techniques. La période des vacances a permis d'adapter les cours de récréation du groupe scolaire aux modifications climatiques, en diminuant l'artificialisation des sols et en privilégiant la création d'îlots de fraîcheur. Espaces végétalisés accessibles, mobilier en bois naturel, abris en osier, pergolas, arbres, place au cours récréatif de demain. Page 8-9. Cadre de vie. Métropole. La métropole accompagne les professionnels. Tours Métropole Val-de-Loire accompagne les entreprises et professionnels implantés sur son territoire. Zoom sur le contrat d'objectif territorial énergie renouvelable et le dispositif Fonds Façade. Favoriser la transition énergétique. Le contrat d'objectif territorial énergie renouvelable COTENR est porté par Tours Métropole Val-de-Loire et vise à soutenir les projets d'investissement dans les énergies renouvelables thermiques. Il est financé par l'ADEME et la région Centre Val-de-Loire. Entreprises, bailleurs, associations et collectivités peuvent recevoir jusqu'à 45% de subventions pour des investissements en matière de production de chaleur. Filière bois-énergie, géothermie, solaire thermique, récupération de chaleur fatale et éventuel réseau de chaleur associé pour mutualiser les besoins et les moyens de production, les énergies renouvelables électriques de type solaire, photovoltaïque, éolien ou hydroélectricité ne sont en revanche pas éligibles à ce dispositif d'aide. Par ailleurs, le coût des études de faisabilité peut également être financé jusqu'à 60% et le conseil technique neutre et indépendant est assuré gratuitement par la métropole. Les porteurs de projets sont invités à contacter avec Tours Métropole au 02 42 88 02 53 ou par mail cot@tour-métropole.fr. Embellir sa façade commerciale. Le dispositif d'aide aux entreprises artisanales et commerciales pour la rénovation de leur façade commerciale est toujours en place. Financé par Tour Métropole, il vise à dynamiser le commerce et l'artisanat de proximité sur le territoire métropolitain. La subvention représente 25% du coût hors taxe des travaux éligibles et est plafonnée à 4000 euros. L'opération s'adresse aux entreprises artisanales, commerciales, de services, cafés et restaurants, en phase de création, reprise ou développement, exerçant leur activité dans le périmètre de la métropole et répondant aux critères suivants. Chiffre d'affaires inférieur à 1 million d'euros hors taxe, point de vente n'excédant pas 400 mètres carrés et vitrine commerciale visible depuis l'espace public. Plus d'infos, www.tour-métropole.fr/entreprendre. La gestion des déchets, l'affaire de tous. Face à une augmentation des dépôts sauvages et autres incivilités, nuisant à la qualité de vie des habitants et à la préservation de l'environnement, voici quelques rappels des comportements à réadopter. Trier ses déchets, c'est faire un geste pour l'environnement. La métropole édite chaque année un aide-mémoire spécifique à chaque commune. Vous y trouverez les dates et horaires des différentes collectes en fonction notamment des jours fériés, les conseils de tri, les numéros utiles. À noter que les dépôts sauvages sur l'espace public sont passibles d'une amende de 135 euros. Des points de collecte fixes. De nombreux points d'apport volontaire, PAV, sont installés sur le territoire de la commune. Vous pouvez y déposer le verre, les emballages recyclables et les ordures ménagères. La liste de ces points de collecte est disponible sur le site web de la ville. Un accès gratuit à la déchetterie. La carte d'accès à la déchetterie est gratuite sur présentation d'un justificatif de domicile pour tous les habitants de la métropole. Pensez-y pour vos déchets volumineux, les déchets végétaux, etc. Si vous ne disposez pas encore de votre carte, le formulaire est disponible en ligne sur www.tour-métropole.fr. La Trimobile sur le marché. La Trimobile est un point de collecte itinérant présent sur de nombreux marchés de la métropole, dont celui de Saint-Cyr-sur-Loire, un mardi et un vendredi par mois. Ce service métropolitain de proximité récupère les petits appareils électriques et électroniques hors d'usage, les textiles, les cartouches d'imprimantes, les radiographies, les piles, les livres, les ampoules et néons, les montures de lunettes. Tous les dépôts ne sont pas acceptés. La déchetterie mobile ne collecte pas les déchets volumineux, les gravats, les déchets verts ou les produits toxiques. La Trimobile sera présente sur le marché, rue du Lieutenant-Colonel Mayou, de 9h à midi, les 7 et 24 novembre, ainsi que les 5 et 22 décembre prochains. Le Plume s'expose à Saint-Cyr. À l'occasion de la première phase de son élaboration, Tours Métropole organise une exposition itinérante présentant le diagnostic du territoire et les enjeux de demain liés au plan local d'urbanisme métropolitain. Plume. Document d'urbanisme intercommunal, le Plume fixera les règles générales d'utilisation du sol sur tout le territoire de la métropole. Il illustre alors la politique d'aménagement et de développement du territoire métropolitain d'ici 10 à 15 ans au regard des différents enjeux. Cette exposition abordera des thématiques telles que les espaces naturels et agricoles, l'organisation urbaine, l'adaptation des logements face aux transitions démographiques et climatiques, etc. L'exposition sera installée du 4 au 22 décembre à l'hôtel de ville de Saint-Cyr-sur-Loire, premier étage du bâtiment administratif, aux heures d'ouverture de la mairie. Plus d'infos, www.tour-métropole.fr/PLUM. Prenez note, une concertation publique sur le schéma cyclable métropolitain aura lieu dans quelques semaines. Elle concernera notamment deux itinéraires cyclables passant par Saint-Cyr-sur-Loire. Plus d'infos, www.tour-métropole.fr. Pages 10 et 11, cadre de vie. Urbanisme. Construire et préserver le patrimoine historique. Le rôle de l'architecte des bâtiments de France. L'architecte des bâtiments de France dirige les unités départementales de l'architecture et du patrimoine, placées sous l'autorité du préfet de région. En Indre-et-Loire, Régis Berge est garant du patrimoine, conservateur des monuments historiques appartenant à l'État, et veille sur l'état sanitaire des autres monuments. Il existe différents types de protection, selon qu'il s'agisse d'un site inscrit, comme par exemple le parc de la Pérodière, d'un site classé, comme le parc de la Tour, ou bien la Grenadière, ou d'édifices inscrits ou classés, tels que l'église Saint-Cyr, Sainte-Julitte. Les sites inscrits. La loi de 1930 sur les sites permet une meilleure protection dans les espaces, les pays et les terroirs marqués par l'empreinte humaine. L'architecte des bâtiments de France, ABF, a pour mission de veiller sur ces espaces inscrits au titre des sites. Il donne son avis sur les travaux nécessaires et doit être consulté pour tout projet de modification. Les sites classés. Ils sont en principe inconstructibles, sauf exception. Les déclarations de travaux relèvent du préfet, sur avis de l'ABF, et les permis de construire ou de démolir relèvent du ministre chargé de l'écologie et du développement durable, après examen par la Commission départementale des sites, CDS, présidée par le préfet. Les édifices inscrits ou classés. Selon l'article 1 de la loi du 31 décembre 1913, les immeubles dont la conservation présente, au point de vue de l'histoire ou de l'art, un intérêt public, sont classés comme monuments historiques, en totalité ou en partie. Le classement confère aux bâtiments concernés une protection particulière, ainsi qu'à ses abords, qui constituent son écrin. L'église Saint-Cyr, Sainte-Julitte, est un bâtiment inscrit depuis le 19 juillet 1936, tandis que la Gruette est un bâtiment classé depuis le 14 juin 1963. Les abords de monuments historiques ou les périmètres délimités des abords, PDA. Il existe deux types de protection autour d'un monument historique, classé ou inscrit. Le rayon de protection de 500 mètres autour du bâtiment protégé, ou le périmètre délimité des abords, PDA, ce qui est le cas pour Saint-Cyr-sur-Loire. Ils permettent de réserver l'action de l'ABF aux zones les plus intéressantes situées autour d'un monument historique, en lieu et place de l'ancien périmètre de 500 mètres. Le PDA est un secteur géographique recentré sur les enjeux essentiels et sur les lieux les plus sensibles au regard de la préservation du monument concerné. Au sein de ces PDA, tous les avis de l'ABF sont conformes. Après analyse préalable par le service urbanisme, les dossiers sont examinés en partenariat avec l'ABF lors de permanences mensuelles. À cette occasion, le pétitionnaire ou son maître d'œuvre peut être présent s'il en fait préalablement la demande. Dans ces périmètres, les travaux qui modifient l'aspect extérieur des immeubles, façades, couvertures, etc., ou qui modifient les lieux extérieurs, piscines, murs, extension d'un bâtiment, etc., nécessitent l'accord de l'ABF. Comme toute décision administrative, l'avis de l'ABF peut faire l'objet d'un recours de la part du demandeur ou de l'autorité compétente qui délivre les autorisations d'urbanisme. Page 12-13. Cadre de vie. Environnement. Lutter efficacement contre le frelon asiatique. Arrivé dans le sud-ouest de la France en 2004, le frelon asiatique, ou frelon à pattes jaunes, a rapidement envahi la France et Saint-Cyr-sur-Loire n'a pas fait exception. Piéger les reines fondatrices au printemps pour limiter la prédation l'été reste primordial. Les attaques récurrentes de cet insecte prédateur sur les colonies d'abeilles entraînent des pertes importantes pour les apiculteurs et de lourdes conséquences sur l'environnement et la biodiversité. Cette dernière représentant un enjeu majeur, la lutte s'est organisée au niveau national avec l'aide des organisations sanitaires apicoles locales. Ce plan d'action met l'accent sur le piégeage des rennes pour une protection optimale des ruchers et de la biodiversité. En fonction des températures, le piégeage s'étend de fin février à fin mai pour reprendre mi-novembre pendant un ou deux mois, quand les rennes quittent les nids pour s'enterrer jusqu'au début de la remontée des températures. Un piège sélectif, en collaboration avec les SAT de Bridoré, un modèle de piégeage a été proposé par le Groupement de défense sanitaire apicole d'Indre-et-Loire, GDSA-37. Il a été conçu sur le principe d'une grille filtrante calibrée afin de ne retenir que les frelons asiatiques dans le piège et de permettre aux autres insectes d'en ressortir. Sous le piège se trouve un socle rempli d'un appât à base de bière et de sirop de cassis, attirant le frelon en quête de nourriture. Pour en savoir plus sur ce piège et vous équiper, appelez Thierry Mouchet, référent frelon GDSA 37, au 06 51 09 44 90. Que faire en cas de détection d'un nid ? N'appelez pas les pompiers et restez à distance du nid. S'il se trouve sur le domaine public, ce sont les services municipaux qui interviendront. Appelez la mairie au 02 47 42 80 00. S'il se trouve sur le domaine privé, chaque propriétaire a le choix d'en assurer la destruction ou non, la législation française n'imposant rien dans la matière. Pour l'enlèvement d'un nid de frelons, comptez entre 90 et 140 euros si celui-ci est accessible avec une perche, ou environ 400 euros si une nacelle est nécessaire pour l'atteindre. La liste des professionnels agréés pour la destruction des nids est disponible sur le site web de la ville. FAQ, cadre de vie. Accueillir les oiseaux en ville. La ville poursuit son programme d'installation de nichoirs dans ses espaces verts. L'objectif est double. Favoriser le développement de la biodiversité et s'appuyer sur les espèces accueillies pour combattre les populations de nuisibles. Cette action est menée en collaboration avec la Ligue pour la protection des oiseaux, LPO, qui gère l'installation, l'entretien des nichoirs ainsi que le suivi des nidifications et des populations. Selon leur gestion, les parcs attirent différentes espèces. Les parcs dits à l'anglaise, comme le parc de la Tour, plus sauvage, accueillent de nombreuses espèces d'oiseaux. Le changement climatique complique la capacité des oiseaux à s'adapter aux périodes où la nourriture est présente. Les nichées doivent en effet correspondre à la présence de proies pour que les petits soient nourris. Une forte fréquentation de mésanges. En 2022, la LPO a relevé un taux d'occupation à 80% sur la cinquantaine de nichoirs à mésanges installés. Un résultat encourageant pour les prochaines saisons. Une vingtaine de nichoirs supplémentaires va être déployée au sein des cimetières de la ville et des espaces boisés, comme dans le quartier de la Ménardière. Les nichoirs sont adaptés à chaque espèce, avec un trou d'envol calculé précisément pour les protéger au mieux des prédateurs. Par exemple, l'ouverture mesure 32 mm pour les mésanges charbonnières et 28 mm pour les mésanges bleus. La période de reproduction des mésanges commence fin janvier, début février, et deux nichées ont lieu par an avec 8 à 10 petits, avril, mai et juin. Par ailleurs, la mésange est un prédateur naturel de la chenille processionnaire du pin et du chêne. Sa présence dans des zones infestées est un atout majeur car un couple de mésanges est capable d'ingérer plus de 500 à 600 chenilles par jour. D'autres espèces concernées. Une vingtaine de gîtes à chauves-souris va être installée dans les parcs de la ville et du centre de loisirs à Maitré, une chauve-souris consommant en moyenne 2000 moustiques par nuit. Enfin, 6 nichoirs à Grimperot, 6 nichoirs à Rouge-Queue et un nichoir à Huppe-Fassier prendront également place en ville. Ces espèces permettant de lutter respectivement contre les insectes sous écorce, œufs, larves, araignées, etc., les insectes volants et les insectes se trouvant au sol, larves, vers, limaces, etc. Plus d'infos, indre-et-loire@lp lpo.fr, cvdl.lpo.fr, sur Facebook, LPO, Indre-et-Loire. Bon à savoir, pour favoriser l'installation des oiseaux dans votre jardin, voici quelques conseils de la LPO. Installez le nichoir en février, à 3 ou 4 mètres de hauteur, orienté est. Privilégiez un nichoir à balcon, plus protecteur. Choisissez un bois d'au moins 20 mm d'épaisseur. Celui-ci doit être laissé brut. Protégez l'arbre avec des tasseaux de bois pour éviter que le fil de fer n'abîme son écorce. Retirez le nichoir en août pour le nettoyer à l'eau savonneuse et stockez-le au sec. En hiver, privilégiez des graines de tournesol bio à disposer dans une mangeoire propre et suffisamment haute pour limiter l'accès des prédateurs. Évitez les mélanges de graines. Perte. Pages 14 et 15. Cadre de vie. Les travaux de proximité. Agents de la ville et métropolitains œuvrent au quotidien pour vous offrir le meilleur cadre de vie possible. Tour d'horizon des chantiers réalisés, en cours et à venir. En 1. Cimetière Mont-Repos. Réfection des massifs de l'entrée et des allées. À venir. En 2. Rue de la Croix de Pierre. Plantation de massifs. À venir. En 3. Boulevard Charles de Gaulle. Réalisation de fosses et plantations d'arbres. En cours. En 4. Rue du Clos Bénard. Réfection du carrefour et de la voirie. Création d'une piste piéton-vélo. Réalisé. En 5. Rue Victor Hugo. Plantation de massifs. En cours. En 6. Parc de la Clarté. Plantation de végétaux devant le manoir. À venir. En 7. Rue Louis Bézard. Réfection de la voirie, gestion des eaux pluviales avec mise en place de caniveaux et avaloirs. Réalisé. En 8, rue Roland en Gérant, aménagement d'un plateau à hauteur du passage pour piétons. En cours. En 9, rue de Charsenay, rue de Palluo, aménagement d'un plateau à hauteur de l'intersection. À venir. En 10, cimetière République, rénovation des massifs de l'entrée et du monument aux morts. À venir. En 11, avenue de la République, création de prairies fleuries au pied des arbres. En cours. En 12, avenue de la République, modification des passages piétons en pavé. En cours. En 13, parc de la Tour, plantation d'arbres. À venir. En 14, parc de la Pérodière, réfection des massifs et plantation d'arbres. En cours. En 15, quai des Maisons Blanches, création de prairies fleuries au pied des arbres. En cours. Page 16-17. Grand angle. Événement. La mémoire de Jacques Chirac honorée. La date du 30 septembre 2023 restera gravée dans les mémoires comme celle d'un moment chargé en émotions et en souvenirs. Ce jour-là, l'ancienne mairie a été baptisée Espace Jacques Chirac en présence de la fille du chef d'État, Claude Chirac. Construite en 1934, l'ancienne mairie est un bâtiment emblématique de la ville qui a accueilli en son temps les services municipaux et la salle du conseil municipal. Après 2 années de rénovation, elle a été baptisée Espace Jacques Chirac. Le 30 septembre, alors que 4 ans plus tôt, jour pour jour, étaient célébrées les obsèques nationales du président de la République. Jacques Chirac, un symbole fort pour la ville. L'ancien chef d'État s'est déplacé 2 fois à Saint-Cyr-sur-Loire. La première fois en 1993 et la seconde fois en 2001, alors qu'il menait sa campagne présidentielle. Philippe Briand entretenait des liens d'affection particuliers avec celui qui fut moteur dans son engagement dans la vie publique. Il en fut également brièvement ministre. Il confie : Jacques Chirac fut un grand président. Celui qui engagea la France sur la voie de la modernité au tournant de l'an 2000. Celui qui osa dire non à l'Amérique pour la guerre en Irak. Il aimait les Français, et ceci le lui rendait bien. Il était pour moi inconcevable que Saint-Cyr ne lui rende pas hommage en donnant son nom à notre ancienne mairie, qui est devenue un vrai lieu d'animation et de rencontres intergénérationnelles. Un moment de rassemblement et d'unité. À l'appel de Philippe Briand, beaucoup d'amis fidèles avaient répondu présents pour ce temps d'hommage à celui qui fut longtemps pour eux un guide, un chef de file. Autour de Claude Chirac, fille du président de la République, on comptait de nombreuses autres personnalités politiques. François Baroin, Hervé Guémard, Christian Jacob, Renaud Muselier, Christine Lagarde, Françoise de Panafieux, Jacques Toubon, Guy Dru, etc. Une cérémonie chargée en émotions pour saluer la mémoire du chef d'État, profondément humaniste, visionnaire, très attaché aux Français et à la France rurale, ce que n'a pas manqué de souligner Philippe Briand, maire, lors de son émouvant discours. Claude Chirac a témoigné de sa profonde gratitude d'honorer ainsi la mémoire de son père. Une nouvelle sculpture à la Peyraudière. Après le dévoilement de la plaque en façade du bâtiment, puis les discours salle Rabelais, plus de 500 personnes ont pris le chemin du parc de la Peyraudière et de l'allée des personnalités. Là, une nouvelle œuvre réalisée par le sculpteur Michel Audiard, installée dans les sous-bois, y a été inaugurée. Elle trouve naturellement sa place parmi les autres grandes personnalités qui ont fait l'histoire de la nation et dont les silhouettes jalonnent cette allée bien connue du parc de la Peyraudière. Parmi eux, Georges Clemenceau, Winston Churchill et le général de Gaulle. Page 18. Grand angle. Événement. Louise Gaillard, maire de Saint-Cyr durant l'après-guerre. Les travaux de réhabilitation de l'espace Jacques Chirac ont permis la création d'une nouvelle salle au sein du bâtiment. Réservée aux élus de l'opposition municipale, ils y organisent régulièrement leurs réunions. Le 7 octobre, elle a été baptisée au nom de Louise Gaillard. Louise Gaillard, née Jolie, est née le 3 mars 1886 à Douai. Après de brillantes études, elle est nommée professeure à l'École normale d'Évreux et épouse Antoine Gaillard en 1912. Elle donne naissance à deux garçons, Jacques en 1919 et Jean-Alfred en 1922. Une femme courageuse et engagée. C'est en 1931 que la famille emménage en Touraine. Puis, en 1941, elle s'installe dans une propriété à Saint-Cyr-sur-Loire, rue des Amandiers. En 1944, Louise Gaillard est inscrite par le préfet Vivier comme dernier nom et seule femme sur la liste du nouveau conseil municipal. Elle participe à trois commissions essentielles en cette fin de guerre. Le ravitaillement, l'assistance aux réfugiés et les écoles. Elle reloge les Saint-Cyriens dont les maisons ont été démolies par les bombardements de 1944 dans des baraquements de la cité Louis Blot. Avec le curé Noël Barbier, elle restaure l'église durement touchée. En 1945, après la démission du maire en place, elle est élue à l'unanimité des 20 conseillers municipaux. Elle est l'une des deux femmes maires du département d'Indre-et-Loire. Réélue en 1947, Louise Gaillard envisage pour sa ville de grandes réalisations. Un groupe scolaire, Roland Enguerrand, Jacques-Marie Rouget, Charles Perrault. Un stade, Joseph Jaunet, aujourd'hui démoli sur l'emplacement du cœur de ville. Et les immeubles du quartier Mayou. Elle ne se représente pas aux élections de 1953, souhaitant voyager avec son mari. Projets qui ne verront pas le jour car il décède en 1954. Louise Gaillard s'éteint à Évreux le 14 avril 1974. Source biographie, Association Saint-Cyr, Hommes et Patrimoine. Une rue et une salle portent son nom. La rue Louise Gaillard est située au sud-est de la rue de la Chanterie, en limite de la ville de Tours. Et depuis le 7 octobre, une salle porte désormais son nom. Une proposition de dénomination évidente formulée par Thierry Davot, conseiller municipal de l'opposition, soutenue par son homologue François Vollet. Avec les membres de l'opposition, nous sommes heureux que cette femme, courageuse et dévouée, soit mise à l'honneur. Une façon de réparer l'oubli dans lequel celle qui fut l'une des deux femmes mères en Indre-et-Loire en 1945 fut injustement plongée. L'inauguration s'est déroulée en petit comité et a été l'occasion pour l'association Hommes et Patrimoine, et notamment pour Madame Davenier, de donner une conférence riche et détaillée sur la vie et le parcours exceptionnel de Louise Gaillard. L'arrière-arrière-petit-fils de Louise Gaillard a ensuite dévoilé la plaque en présence de Patrice Vallée, maire adjoint, et des élus de l'opposition François Vollet et Thierry Davot. Page 19. Proximité. Jeunesse. Les nouveautés de la rentrée. Le lundi 4 septembre dernier, près de 1200 écoliers ont repris le chemin des établissements scolaires saint-cyriens. Lors de sa traditionnelle visite de rentrée, Philippe Briand, maire, et Françoise Bayereau, maire adjointe chargée de l'enseignement et de la vie éducative, accompagnée de membres du conseil municipal, ont pu constater la bonne réalisation des chantiers de l'été et échanger avec les équipes enseignantes sur les projets réalisés. 1 100 000 euros d'investissement. La section maternelle du groupe scolaire Périgourd a été totalement rénovée, du sol au plafond, par les services techniques de la ville, pour un budget de 300 000 euros. La section élémentaire, quant à elle, devrait faire l'objet d'un rafraîchissement en 2024 et en 2025. Au sein du groupe scolaire Roland-Enguerrand Charles Perrault, ce sont les cours de récréation qui se sont transformés en véritables cours-jardins, pour un budget s'élevant à près de 800 000 euros. Le Moulin Neuf s'adapte. Les demandes d'inscription à l'accueil de loisirs du Moulin Neuf atteignent cette année un chiffre record. La ville enregistre 225 inscriptions à la journée et 60 à la demi-journée. Face à cette affluence, une nouvelle organisation a été mise en place pour maintenir la qualité d'accueil et de confort des enfants. Pour les demi-journées, les enfants sont accueillis sur le site des écoles Charles Perrault Roland-Enguerrand. Afin de répondre aux normes d'encadrement et aux besoins de restauration et d'entretien, 5 animateurs et un agent municipal supplémentaire ont été recrutés. À noter qu'il s'agit d'une solution temporaire et que la rénovation de l'accueil de loisirs à venir permettra d'accueillir l'ensemble des enfants sur le site de Maitré. Parole d'élu. Françoise Bayereau, maire adjointe en charge de l'enseignement et de la vie éducative. Les petits Saint-Cyriens ont vécu une rentrée scolaire sereine. Un calme qui contrastait avec l'activité des jours précédents. Entreprises et services municipaux ont œuvré tout l'été pour livrer et réinstaller des locaux flambant neufs à l'école maternelle Périgourd et préparer les cours-jardins des écoles Charles Perrault et Roland-Enguerrand. Page 20-21. Proximité. Jeunesse. Retour sur un été animé. Petits et grands Saint-Cyriens ont bien profité des animations proposées par les services de la ville. Au Moulin Neuf, à Cap-Jeune, en France ou à l'étranger, retour sur les temps forts de la période estivale. Un bel été au Moulin Neuf. Les enfants sont repartis avec le sourire et des souvenirs plein la tête. Certains ont eu la chance de partir en mini-camp à Montbazon, où ils ont fabriqué un bracelet en cuir et des tuiles en bois, se sont initiés à la calligraphie et à l'arbalète. D'autres se sont rendus à Chailles, au sein d'une ferme pédagogique, pour y découvrir la taille de pierre, la fabrication de papier recyclé, etc. En parallèle, des activités récréatives proposées sur place, les enfants restés au centre ont pu bénéficier de sorties aux eaux de la Flèche, au jardin botanique, à l'aquarium, ou encore relever de beaux défis sportifs à Haro Arena. Enfin, il est impossible d'évoquer le Moulin Neuf sans citer le ventre glisse, la danse du matin, ou encore les acrobaties dans le château gonflable, qui font partie des incontournables d'un été réussi à l'accueil de loisirs. Succès pour Cap-Jeune. Cet été, Cap-Jeune a battu un record de fréquentation avec 50 jeunes accueillis chaque semaine, dont une quinzaine en camp. Descente de Loire, sport mécanique, escalade font partie des activités appréciées par les jeunes. Pour ceux qui sont restés à Saint-Cyr, les animations n'ont pas manqué. Acrobranche, escape game, activités sportives et manuelles, sans oublier le traditionnel grand jeu pour clôturer la semaine. En juillet, les agents des services municipaux ont été mis à contribution pour jouer le rôle de témoin dans le cadre d'une grande enquête policière. Des séjours en France et à l'étranger. L'été 2023 a été marqué par la reprise des séjours à l'étranger en Irlande, aux États-Unis et en Angleterre, auxquels ont participé 29 jeunes Saint-Cyriens. En juillet, 12 jeunes ont mis le cap sur la Charente-Maritime pour un séjour en bord de mer. Du changement pour 2024. Dans le cadre de la préparation des séjours pour 2024, la municipalité a sollicité l'avis des familles via une enquête. Les questionnaires sont actuellement en cours d'analyse par le service jeunesse. Les réponses permettront de faire évoluer l'offre de séjour pour qu'ils répondent au mieux aux souhaits des jeunes et de leurs familles. Parole d'élu. Véronique Guiraud, maire adjointe en charge de la petite enfance, des loisirs et vacances. Encore un superbe été pour les activités jeunesse proposées par la municipalité. Les camps, fêtes du centre, grands jeux, séjours vacances à l'étranger, été de retour pour le bonheur de tous, et cela s'est vu au regard des fréquentations enregistrées et des messages de satisfaction reçus. Pages 22-23. Proximité. Portrait. La marche de Lali contre le diabète. Lali est scolarisée à l'école Anatole France depuis 2020, année au cours de laquelle elle déclenche un diabète de type 1. Après une période de tumulte, la petite fille poursuit sa scolarité comme tous les enfants de son âge et marche pour sensibiliser sur cette maladie méconnue. Le diabète de type 1 est une maladie chronique qui apparaît dans 50% des cas avant l'âge adulte. Lali a besoin d'injections quotidiennes d'insuline, notamment lors des repas, afin de stabiliser sa glycémie et pallier le rôle de l'organe défectueux, le pancréas. Sur son corps, une pompe à insuline et un capteur de glycémie lui permettent des gestes de soins en Bluetooth, moins intrusifs et plus discrets. Un quotidien bouleversé. Sa maman, Priscilla, commente « Nous avons adapté notre quotidien pour conserver une vie comme avant. » Au bout d'un an, Lali était autonome dans la gestion de sa maladie. Au départ, à l'école, cela a généré quelques craintes. Mais elle a eu la chance d'avoir un maître hors du commun, Monsieur Schmitt, qui l'a accompagnée et qui s'est intéressée à la maladie. Elle a pu faire un exposé en début d'année qui lui a permis d'expliquer sa pathologie à ses camarades afin de les sensibiliser, afin qu'ils reconnaissent les moments où elle ne va pas bien et comment l'aider. Marcher pour sensibiliser. En classe de CM1, les élèves ont été invités à suggérer des actions. Lali a proposé à sa classe de participer à la boucle du diabète en juin 2023. Deux classes de 25 élèves se sont engagées à parcourir un maximum de kilomètres sur un temps imparti, au cœur du parc de la Tour. La première des deux a parcouru 25 km et la seconde 77. Lali a ressenti une grande fierté d'être à l'origine de ce projet et une immense gratitude pour ses camarades unis autour de sa maladie. Sans oublier la reconnaissance envers les enseignants qui ont rendu possible cette sortie caritative, commente Priscilla. Elle ajoute « C'est une marche importante qui permet de sensibiliser et d'informer le grand public sur le diabète. Nous y participons chaque année à Paris, sauf quand elle est délocalisée, comme ce fut le cas cette année. Depuis qu'elle existe, soit 7 ans, 73 552 euros ont également été reversés à la recherche sur le diabète. Les parents de Lali apprennent un peu plus chaque jour sur la maladie de leur fille, en lien avec leur diabétologue pédiatrique. Ils voient ce bouleversement dans leur vie comme une chance pour l'avenir. Le diabète et le protocole de soins inhérents sont maintenant connus au sein de l'école. Cela permettra une approche plus éclairée et sereine si d'autres cas étaient à prendre en charge. Lali, aujourd'hui en classe de CM2, quittera l'école pour le collège en juin 2024. Ses parents tiennent ici à remercier les personnels, enseignants, municipaux, qui ont permis à leur fille de grandir avec la maladie. Petite enfance. La souris verte mise à l'honneur. Samedi 16 septembre, la souris verte a ouvert ses portes au public à l'occasion de l'inauguration de la maison de quartier Denise Duplex, où elle est installée depuis janvier 2022. L'équipe de la souris verte était présente pour accueillir personnalités, publics et familles présentes avec leurs enfants. La structure installée au rez-de-chaussée accueille 28 enfants âgés de 3 mois à 4 ans, 20 avant le déménagement. L'espace de vie de 450 mètres carrés s'organise autour d'un arbre magique qui l'illumine et dont la couleur peut être modulée au gré des envies, des saisons et des animations. Les visiteurs, dont les représentants de la Caisse d'allocation familiale, CAF, et de la Protection maternelle et infantile, PMI, du Conseil départemental, se sont accordés sur la qualité de cet équipement d'accueil du jeune enfant. Une qualité liée à la conception même du bâtiment, haute qualité environnementale, HQE, aux matériaux utilisés, au choix du mobilier, mais aussi à la prise en compte des normes en vigueur et des besoins formulés par les équipes de la petite enfance. Une inscription simplifiée. Il est dorénavant possible de réaliser la préinscription de votre enfant dans les structures petite enfance municipales, la Pirouette et la Souris Verte, depuis le portail Famille. Pour cela, les familles doivent disposer d'un compte actif, Si ce n'est pas le cas, vous êtes invité à remplir le formulaire en ligne sur saint-cyr-sur-loire.portail-famille.net. Demandez le menu. Vous souhaitez savoir ce que votre enfant va manger à la souris verte? Le menu est disponible chaque mois sur le site web de la ville. Mieux accompagner les enfants porteurs de handicap. Le 12 juillet, les agents du service de la petite enfance ont participé à une journée de formation pédagogique sur le thème du handicap. L'équipe pluridisciplinaire du Centre d'action médico-sociale précoce de Clocheville, CAMSP, a présenté ses missions et le travail réalisé avec les enfants porteurs de handicap. Un temps d'échange, basé sur des partages d'expériences des agents de la petite enfance, a permis d'apporter des pistes de réflexion et des moyens à mettre en œuvre. Enfin, un éducateur du pôle ressources handicap a mis à disposition des agents un ensemble d'outils et de ressources matérielles auxquelles ils peuvent se référer dans leur quotidien. Chaque enfant est différent, chaque handicap également. Les agents disposent désormais de connaissances plus solides pour proposer un accueil adapté à chacun, accompagner au mieux les familles d'enfants porteurs de handicap et valoriser leur inclusion au sein des structures municipales. Pages 24-25. Proximité. Événement. Saint-Cyr entre en jeu. À moins d'un an des Jeux Olympiques et Paralympiques Paris 2024, Saint-Cyr-sur-Loire, labellisée Terre de Jeux 2024, et dans les starting blocks. De nombreux rendez-vous attendent les Saint-Cyriens pour faire vivre le sport d'ici à l'été prochain. Le label Terre de Jeux 2024. Le label Terre de Jeux 2024 est une initiative lancée par le Comité d'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 qui s'adresse à toutes les collectivités territoriales et structures du mouvement sportif. Chacun est invité à contribuer à son échelle aux trois objectifs suivants. La célébration, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux. L'héritage, pour changer le quotidien des Français grâce au sport. Et l'engagement, pour que l'aventure olympique et paralympique profite au plus grand nombre. En tant que commune labellisée Terre de Jeux 2024, Saint-Cyr-sur-Loire s'engage à développer des actions pour promouvoir le sport et les Jeux, dans le respect de la charte olympique et de la charte éthique de Paris 2024. Plusieurs rendez-vous sont programmés, vous pouvez d'ores et déjà prendre date. Les samedis olympiques. Les clubs sportifs de la ville se mobilisent pour faire vivre le sport auprès du plus grand nombre. Le premier samedi des vacances d'automne, d'hiver et de printemps, ils vous donnent rendez-vous sur les différents complexes sportifs pour vous initier à de nouvelles disciplines, assister à des démonstrations et rencontrer des sportifs de haut niveau. Le premier rendez-vous aura lieu le samedi 21 octobre au gymnase Sébastien Barque. 6 clubs de la ville ont répondu présents pour faire découvrir leur sport aux Saint-Cyriens. École, en route pour les Jeux. Les éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, ETAPS, interviennent tout au long de l'année dans les écoles primaires. Pour cette nouvelle année scolaire, le programme sera naturellement consacré au thème des Jeux Olympiques. Cependant, la ville souhaite aller encore plus loin en organisant au printemps prochain des semaines olympiques et paralympiques. Un programme est en cours de préparation avec les établissements primaires et secondaires de la ville, les associations de la ville et d'autres structures, EHPAD, Centre de santé mentale de la Confluence, etc., pour promouvoir le sport de manière intergénérationnelle. Quelle place pour le sport dans notre société ? En s'engageant dans la démarche Terre de Jeux 2024, la ville fait le choix de promouvoir les Jeux Olympiques de Paris 2024, mais également d'encourager la pratique physique et sportive pour tous. Dans ce contexte, un temps d'échange et de débat sera proposé autour de la place occupée par le sport et l'activité physique au sein de notre société. Cette table ronde se tiendra au printemps à l'Escale. Un week-end festif autour du sport. Pour clôturer le programme Terre de Jeux de Saint-Cyr-sur-Loire, la ville et ses partenaires vous donnent rendez-vous pour un week-end festif. Celui-ci sera placé sous le signe de la fête, de l'esprit sportif, mais aussi des valeurs olympiques et paralympiques. De nombreuses animations sportives et culturelles feront vibrer le complexe Guideru à quelques semaines seulement du lancement officiel des JO. Parole d'élu. Jean-Jacques Martineau, conseiller municipal délégué au sport et à la vie associative. Jean-Jacques Martineau, conseiller municipal délégué au sport et à la vie associative. L'obtention du label Terre de Jeux 2024 récompense la politique sportive de la ville au bénéfice du plus grand nombre. Une formidable occasion de célébrer le sport et de mettre à l'honneur l'ensemble des acteurs, bénévoles, salariés et responsables, qui le font vivre tout au long de l'année. Tous ensemble, faisons de cette année olympique une grande fête du sport à Saint-Cyr-sur-Loire. Pages 26-27. Proximité. Décryptage. Circuler en toute sécurité. De nouvelles mobilités apparaissent et entraînent une modification du code de la route afin que chacun trouve sa place dans l'espace public. Êtes-vous au point sur la législation ? À vélo, je peux passer au rouge. Faux. Les cyclistes sont soumis au code de la route et ne peuvent brûler un feu. Cependant, il existe une exception. Se céder le passage cycliste au feu indique qu'ils sont autorisés à suivre la voie indiquée par ce panneau, même si le feu est rouge, à condition de céder le passage aux usagers bénéficiant de la priorité au feu, ainsi qu'aux piétons qui souhaitent traverser. La prudence reste donc de rigueur. À vélo, je peux prendre certains sens interdits. Vrai. Le cycliste est autorisé à prendre une voie en sens interdit si celle-ci est limitée à 30 km/h pour les automobilistes. Ces voies sont souvent identifiées par l'un de ces panneaux. En trottinette, je peux rouler où je veux. Faux. En trottinette électrique, les mêmes règles que pour les cyclistes s'appliquent. Pour se déplacer sur le trottoir, il faut marcher et la tenir à la main. Les trottinettes doivent utiliser les voies cyclables existantes et la vitesse y est limitée à 25 km/h. À noter que les trottinettes sans moteur sont assimilées à des piétons et peuvent circuler sur le trottoir. Une infraction commise à vélo peut entraîner une perte de points sur le permis de conduire. Faux. En cas d'infraction, les cyclistes n'encourent pas de perte de points, mais ils s'exposent à des amendes forfaitaires allant jusqu'à 135 €. Toutefois, en cas de sanction grave, exemple conduite en état d'ivresse, les forces de l'ordre peuvent ordonner une suspension du permis de conduire. En tant qu'automobiliste, je peux franchir une ligne continue pour dépasser un vélo. Vrai. À condition de le faire sans danger, sans gêner d'autres usagers, en utilisant le clignotant et en laissant une distance de 1,50 m entre la voiture et le cycliste dépassé. Pour un court instant, je peux m'arrêter en voiture sur la piste cyclable. Faux. Les automobilistes ont interdiction de stationner, même pour quelques minutes, sur une piste cyclable ou un trottoir, sous peine d'une amende de 135 €. En effet, en obligeant le cycliste ou le piéton à se déporter pour éviter le véhicule, celui-ci se retrouve en danger. Si les vélos et trottinettes ont obligation de respecter le code de la route, les automobilistes sont également tenus d'adapter leur conduite aux nouveaux usagers. La sécurité est l'affaire de tous. Trottinette, roulez en règle. En trottinette, soyez prudent. Pensez à votre sécurité, mais aussi à celle des autres. Quelques rappels de la réglementation en vigueur et du montant de l'amende encourue en cas de non-respect des règles. Casque. Port du casque fortement recommandé en agglomération, obligatoire hors agglomération. 135 €. Gilet à bande réfléchissante. Port d'un vêtement ou équipement rétro-réfléchissant recommandé en agglomération de nuit ou en cas de faible visibilité. Obligatoire hors agglomération. 135 €. Avertisseur sonore obligatoire, 11 €. Feu. Feu avant et arrière, dispositif rétro-réfléchissant obligatoire, 11 €. Frein. Système de freinage en bon état, obligatoire, 11 €. Les obligations. Rouler sur les pistes cyclables. En cas d'absence de piste, autorisation de circuler uniquement sur les routes limitées à 50 km/h maximum. Tenir sa trottinette à la main sur les trottoirs et passages piétons. Disposer d'une assurance de responsabilité civile. Jusqu'à 3 750 €. Les interdictions. Avoir moins de 14 ans, 135 €. Transporter un passager, 135 €. Rouler sur le trottoir, 135 €. Rouler à plus de 25 km/h, 1 500 €. Porter écouteurs ou casque audio, 35 €. Pages 28 et 29. Proximité. Culture. Le théâtre s'invite au collège. La médiation culturelle crée des passerelles entre l'œuvre et le spectateur, favorisant la rencontre, l'échange et le partage. Ainsi, le théâtre devient un outil pour sensibiliser et faire réfléchir les collégiens sur des problématiques du quotidien. Saint-Cyr-sur-Loire est labellisé « Ville amie des enfants ». Page 28-29, proximité. Culture. Le théâtre s'invite au collège. La médiation culturelle crée des passerelles entre l'œuvre et le spectateur, favorisant la rencontre, l'échange et le partage. Ainsi, le théâtre devient un outil pour sensibiliser et faire réfléchir les collégiens sur des problématiques du quotidien. Saint-Cyr-sur-Loire est labellisée « Ville amie des enfants » pour son engagement dans la lutte contre l'exclusion, la discrimination et pour l'équité. À ce titre, le service culturel de la ville, en partenariat avec le Pass Culture, organise des représentations de théâtre au sein des deux collèges de la ville, une manière de faire vivre le théâtre auprès des collégiens, dans leur environnement, et surtout pour leur permettre de s'approprier le spectacle pour y réfléchir et y réagir. En novembre 2022, les jeunes de 4e et 3e avaient assisté à We Just Wanted You to Love Us, une pièce de la compagnie Les Échappés Vifs, conçue pour être jouée dans des salles de classe. Les comédiens y abordent un sujet prioritaire pour l'éducation nationale, la lutte contre le harcèlement en milieu scolaire, et incitent le public à réfléchir sur ce qui peut amener un jeune à recourir à des moyens socialement inacceptables pour exister au regard des autres. Le théâtre devient alors un véritable outil pédagogique permettant d'évoquer des sujets tels que l'estime de soi, le besoin de reconnaissance, l'exclusion, l'effet de groupe, des thèmes présents au quotidien dans les établissements scolaires. Une expérience renouvelée en 2023. Dans le cadre de sa saison culturelle 2023-2024, la ville renouvelle cette expérience qui a rencontré un beau succès auprès des élèves et des enseignants. La thématique du harcèlement en milieu scolaire sera de nouveau abordée avec les classes de 4e autour du spectacle Le Chat de l'association Pratique. Les classes de 3e travailleront quant à elles sur la notion de consentement et de rapport à l'autre durant l'adolescence en s'appuyant sur le spectacle Oui de la compagnie Moebius Band. Parole d'élu. Bruno Lavillatte, conseiller municipal délégué à l'action culturelle. Il y a, pour une ville, les grands axes d'une action culturelle. Ils sont visibles. Et puis, il y a les liens au plus proche des réalités de terrain que nous devons tisser entre tous les publics, et parmi eux les plus fragiles et empêchés. J'ai souhaité, dès 2020, renforcer cet axe en donnant une place prépondérante à la médiation culturelle. Pont entre les pratiques culturelles et leur accès au plus grand nombre. L'art pour tous, y compris contemporains, voici une belle ambition pour Saint-Cyr-sur-Loire. La médiation y répond clairement. Solidarité. Culture du cœur, un partenariat fort avec la ville. Depuis 2016, la ville de Saint-Cyr-sur-Loire est partenaire de l'association Culture du cœur Indre-et-Loire. Plusieurs actions sont mises en place pour faciliter l'accès à la culture au plus grand nombre. L'association Culture du cœur Indre-et-Loire a pour but de lutter contre l'exclusion et d'agir en faveur de l'insertion sociale des personnes, en facilitant leur accès à la culture, au sport et aux loisirs. Elle intervient sur les axes suivants. L'accès aux sorties culturelles, sportives et de loisirs, la formation et l'animation des professionnels du réseau, la mise en place de projets co-construits avec ses partenaires. Une billetterie solidaire. Le partenariat avec Culture du cœur vise à ouvrir la culture à des publics qui n'y ont pas ou peu accès. Ainsi, le service culturel met à disposition de l'association de nombreuses places de spectacle et invitations aux sorties de résidence, aussi bien à destination des adultes que des familles ou même des tout-petits. Pour la saison 2023-2024, cela représente 144 places, un nombre qui augmente chaque année. L'association les propose ensuite à ses structures sociales adhérentes via une billetterie solidaire. Certaines personnes se sentent plus à l'aise ou plus légitimes de réserver une place de spectacle via cette billetterie que directement auprès de la ville, même si le spectacle est gratuit. Toutes les places mises à disposition sont réservées. Cela prouve bien qu'il y a de la demande, explique le service culturel. Derrière le rideau, rendre accessible la culture au plus grand nombre peut également se faire par la découverte du monde du spectacle et de l'art. Par le dispositif derrière le rideau, la ville va ouvrir les portes de l'Escale ou du pavillon Charles X une fois par trimestre un groupe d'une quinzaine de jeunes en décrochage scolaire. L'objectif est de leur offrir la possibilité de découvrir de nouveaux environnements professionnels ou métiers le temps d'un après-midi. À l'escale, ils seront accueillis par Renaud Chailloux, régisseur, pour y découvrir la salle de spectacle, les coulisses, la régie, la scène. Une occasion d'échanger sur les métiers de régisseur, d'ingénieur son ou lumière, ou encore sur le statut d'intermittent du spectacle. Ce type d'action permet de faire ses premiers pas dans un lieu de culture, de manière ludique, en passant par l'envers du décor. Ils assisteront peut-être à une répétition et rencontreront les artistes, souligne Renaud, qui a déjà encadré une visite dans des lieux similaires en 2022. Les jeunes pourront également être accueillis au pavillon Charles X pour y rencontrer un artiste professionnel, échanger sur son travail et assister au montage d'une exposition. Plus d'infos, www.cultureducœur.org. Sur Facebook, Culture du Cœur 37. Page 30. Proximité. Portrait. Marie-Andrée Fourest, cap sur le changement. Directrice des ressources humaines depuis mars 2021, Marie-Andrée Fourest occupe le poste de directrice générale des services depuis le 1er juillet 2023. Une fonction stratégique qui implique de coordonner l'action de 300 agents au quotidien tout en mettant en œuvre les politiques publiques choisies par la municipalité. Rencontre. Quelques mots sur votre parcours, Marie-Andrée Fourest. J'ai eu une expérience riche dans le service public. Tout a commencé en 2002 lorsque j'ai pris la responsabilité des marchés publics à Montfort-sur-Meu, 35. En 2008, j'ai occupé les fonctions de DGS à la communauté de communes du Castel-Renaudet, 37, avant d'être DGS de Josselin Communauté, 56, puis DRH mutualisée et directrice générale adjointe en charge du pôle ressources et moyens de Plohermel et Plohermel Communauté, 56. Avec ma famille, nous sommes revenus en Touraine fin décembre 2020. Quels aspects du poste vous séduisent ? Marie-Andrée Fourest. Ayant essentiellement travaillé en EPCI, établissement public de coopération intercommunale, où tout était à construire au gré des transferts de compétences et fusions, travailler au sein d'une collectivité qui a une histoire, un contenu bien établi, est pour moi une nouveauté. Les agents connaissent bien leur métier et sont fiers de travailler à Saint-Cyr. Aussi, nous sommes amenés à réinterroger nos pratiques et à les améliorer, car tout est perfectible. J'observe une grande capacité des services à se remettre en question et à vouloir avancer dans une bonne dynamique et un esprit de cohésion. En ce sens, je remercie François Lemoine, mon prédécesseur, doté d'un grand sens du service public, qui m'a bien accompagnée avant ma nouvelle prise de poste. C'est un honneur que de lui succéder. Qu'est-ce qu'un bon manager ? Marie-Andrée Fourest. Il n'est pas celui qui se comporte en petit chef autoritaire, mais celui qui permet à ses collaborateurs d'exprimer tout leur potentiel, qui leur permet de proposer, d'innover et de s'épanouir. Je n'imagine pas travailler autrement. Seul, je peux avoir des idées, mais en avançant ensemble, on va plus loin. Bras droit du maire, une relation de confiance doit s'établir avec lui ? Marie-Andrée Fourest. Monsieur le maire doit pouvoir compter sur moi et sur l'ensemble des équipes. Ses projets sont nos objectifs. Je dois être l'interface, le rouage facilitateur en m'appuyant sur les directeurs d'épaule. Lorsque je m'engage avec un élu, je lui suis loyal. La politique qu'il souhaite mener est celle que je m'engage à mettre en œuvre. Quel cap vous a-t-il donné ? Marie-Andrée Fourest. Les dossiers majeurs à venir concernent la continuité des aménagements des espaces publics. Parking qui jouxte l'espace Jacques Chirac et cœur de ville numéro 2. La réhabilitation du centre de loisirs, l'installation d'une médiathèque au sein de l'ancienne école Anatole France, la construction d'une piscine métropolitaine, la poursuite de la réhabilitation de la ferme de la Rabelais, l'atteinte des objectifs en termes d'économie dans le cadre du décret tertiaire, la poursuite des acquisitions de réserves foncières, le maintien en bon fonctionnement des équipements existants. Monsieur le maire est un homme qui a une vision et une ambition pour sa ville qu'il partage avec son équipe municipale. Cette vision, il l'a construite il y a près de 35 ans, lorsque, plus jeune maire de France d'une commune de plus de 15 000 habitants, il décide de constituer des réserves foncières pour façonner Saint-Cyr-sur-Loire et construire une ville-jardin où le beau, l'espace et le bien-vivre ensemble pour toutes Les générations se conjuguent. Le résultat est là. Page 31. Focus. Vie économique. Bienvenue aux nouveaux acteurs économiques. Motocycle. Christelle et Patrick Guiffan-Ménin. Harley Davidson. Concessionnaire. 7 rue Pierre de Coubertin. Téléphone 02 47 22 48 19. commercial@hdtour.fr hdtour.fr. Restaurant Marion Guimier et Arnaud Bache, L'Artiblot. Restaurant cuisine traditionnelle française, 89 boulevard Charles de Gaulle. Téléphone 09 50 70 74 74. contact@restaurant-lartiblot.com. Santé. Jocelyne Dupuis. Bastide, le confort médical. Matériel d'assistance respiratoire, de perfusion et de nutrition. Matériel de maintien à domicile à venir en janvier 2024. 4 rue Guy Bayrault. Téléphone 02 47 65 57 40. contact@bastide-medical.fr. www.bastide-leconfort-medical.com. Service. Abigail Boisseau, architecte d'intérieur et décoratrice. Téléphone 07 82 26 95 50. abi.intérieur@gmail.com. www.abiarchitecture.fr. Clarisse Durand-Henriot, éducateur canin et coach comportementaliste. Téléphone 07 67 73 71 21. coaching.animalier@gmail.com. www.coaching-animalier.fr. Jordan Susanon, Suzac Studio, studio de graphisme, téléphone 06 34 24 64 74. contact@suzaxstudio.fr. www.suzaxstudio.fr. Changement de propriétaire. Olivier et Betty de Contencin, Les Gourmets de Saint-Cyr, boulangerie, pâtisserie, espace de restauration, 247 boulevard Charles de Gaulle, Auchan-Saint-Cyr, Équatop. Téléphone 02 47 49 13 40. Page 32-33. Focus. Vie associative. CRO, prendre le temps de partager. L'association CRO, qui a fêté ses 10 ans d'existence en 2022, anime la ville avec autant d'enthousiasme qu'à ses débuts, et ne manque pas d'idées pour se renouveler chaque année. Le Comité République Organisation Culturelle et Conviviale, CRO, est créé en octobre 2012 par des résidents du quartier République, majoritairement parents d'élèves de l'école du même nom. Leur souhait est alors d'organiser des événements culturels et conviviaux pour animer leur quartier et créer du lien entre les habitants. Paris réussit. 10 ans plus tard, les deux manifestations phares de l'association CRO en scène et Crocard font partie des rendez-vous incontournables du calendrier saint-cyrien. Des bénévoles à pied d'œuvre toute l'année. L'association compte aujourd'hui 43 adhérents et un bureau entièrement renouvelé depuis la période Covid qui a entraîné beaucoup de mouvements au sein de l'association. Mais la motivation de ses membres reste intacte. Le travail ne manque pas et chacun s'investit en fonction de son temps et de ses affinités au sein de commissions. Communication, décoration, restauration, etc. Une majorité des bénévoles ayant une activité professionnelle au quotidien. Selon le CRO, le côté festif d'un événement passe également par la décoration. Nadine Lafage, secrétaire, confie. Nous consacrons beaucoup de temps à la décoration, même les barnums sont habillés. Les fanions, c'est un peu notre marque de fabrique. Coloré pour CRO en scène, blanc et doré pour Crocard. Nous nous retrouvons quelques dimanches après-midi pour préparer la décoration tous ensemble. Il y a beaucoup de récupération et de fait maison. CRO en scène, une fréquentation qui explose. convivial, festif et familial, c'est ainsi que l'association décrit Cros en Seine, sa plus ancienne manifestation, dont la 10e édition se tiendra en 2024. Cette fête de la musique rassemble toutes les générations autour d'un programme festif. Ainsi, les familles viennent à partir de 16h pour profiter des animations dédiées aux enfants. Balades contées, arts plastiques. Puis elles partagent un repas, commandé au food truck voisin et amis, avant de profiter du concert. Pour le côté musique, place aux professionnels. Depuis 2 ans, l'association s'appuie désormais sur le collectif 7880 pour la programmation d'artistes locaux et le plateau. Cette année, Cros en Seine a rassemblé près de 800 personnes. Nous avons été surpris par l'affluence, mais nous avons fait face, déclare avec fierté Virginie De Georges, présidente. Nous constatons que le partenariat avec le collectif 7880 a permis d'amener un nouveau public, les 25-30 ans. Nous nous adaptons en permanence et pour 2024, l'association réfléchit déjà à une animation pour les ados avec de grands jeux en bois. Crocard, priorité à la qualité. En décembre, l'association Cros organise son traditionnel marché de créateurs au manoir de la Tour. Un rendez-vous qui se veut un peu classe mais sans prétention. Les artistes et créateurs professionnels qui y exposent sont choisis méticuleusement, tout comme les producteurs présents sur le marché gourmand. Ainsi, courant septembre, un comité de sélection se réunit pour étudier les candidatures. Le marché de créateurs a désormais une certaine notoriété dans la région, et le Cros a reçu près de 100 candidatures pour une trentaine de places. Le choix est guidé par 2 critères principaux, la qualité et la diversité. L'objectif étant d'offrir une variété d'objets renouvelés d'une année sur l'autre. Textiles, peintures, bijoux, maroquinerie, etc. On retrouve à Crocard une ambiance festive et conviviale, avec de nombreuses animations pour petits et grands. En 2022, l'artiste Gilles Cadet avait animé un atelier d'art graphique et ses filles du vent avaient pris place dans le parc de la Tour quelques semaines. Famille et amis peuvent se retrouver pour déguster un vin chaud au son de l'orgue de Barbarie ou encore découvrir le traditionnel bar à huîtres. Un solide réseau de partenaires. La ville soutient les actions du Cros par la mise à disposition à titre gracieux du manoir et du parc de la Tour pour ces 2 grandes manifestations, par un appui logistique et du prêt de matériel. L'association Cros doit également le succès de ces événements aux nombreux partenariats qu'elle a tissés avec les commerçants de la ville. Ils sont nombreux à soutenir l'animation de leur quartier, que ce soit par un soutien logistique ou financier. Un appui précieux dont le Cros les remercie. Lors de Cros en Seine ou de Crocard, l'association tient un bar dont les recettes permettent de rémunérer chaque année les musiciens qui se produisent à l'animation d'été. Une manière pour l'association de soutenir à son tour le collectif 7880, une association basée à Saint-Cyr. Plus d'infos, crocc37@gmail.com, sur Facebook, Cros Saint-Cyr. Venez nombreux, Crocard 2 et 3 décembre 2023, Cros en Seine, 15 juin 2024, Manoir et Parc de la Tour. Page 34-35, Focus. Patrimoine. Redécouvrir Saint-Cyr à pied ou à vélo. Quelle que soit la saison, Saint-Cyr-sur-Loire peut se redécouvrir à pied ou à vélo. Plusieurs itinéraires invitent à se mettre au vert. Tour Métropole vous propose de nombreuses balades à pied, adaptées au running ou à vélo, sur le territoire métropolitain. Chaque boucle fait l'objet d'une fiche pratique présentant l'itinéraire complet, le niveau de difficulté et le temps de parcours estimé, ainsi que les points de vue et les lieux remarquables à ne pas manquer. 2 itinéraires sont proposés à Saint-Cyr-sur-Loire. Saint-Cyr-sur-Loire Sentier Découverte est un parcours de randonnée à pied de 5 km au départ du parc de la Perraudière qui permet de découvrir le patrimoine bâti de la commune. Saint-Cyr-sur-Loire La Vallée de la Choisille invite les cyclistes à parcourir 8 km à travers ville et campagne, du parc de la Perraudière à la vallée de la Choisille, en passant par le quai des Maisons Blanches. Une balade 100% nature dans le Val de Choisille. L'espace naturel de la Choisille, situé à la limite des communes de Saint-Cyr-sur-Loire, Fondette et la Membrolle-sur-Choisille, est sillonné d'une rivière qui s'écoule le long des prairies inondables, de boisements et de coteaux chauds et ensoleillés. Cette zone naturelle exceptionnelle abrite une grande biodiversité, que vous pouvez découvrir en empruntant l'une des boucles de randonnée banalisées. Pour profiter au mieux de la richesse de la faune et de la flore, des panneaux pédagogiques ludiques et connectés, des zones d'observation et d'écoute des oiseaux sont aménagés tout au long du sentier. Plus d'infos, vélo-rando-touraine.fr, espacenaturel.touraine.fr. Identifiez les clichés de vos balades à hashtag Saint-Cyr-sur-Loire pour partager paysages et jolies découvertes. Portrait, en roue libre. Deux professionnels saint-cyriens proposent leurs services pour réparer vos vélos. Mécanique, électrique, cargo, VTT, ils prennent en charge tout type de vélo et se déplacent à domicile. La petite boucle. Pauline Carabal exerce son activité depuis février 2022. Cette trentenaire passionnée de la petite reine prépare les cycles mécaniques et électriques. Elle se déplace à domicile à bord de son camion qu'elle a transformé en atelier mobile. Êtes-vous mécano-vélo de formation? Pauline Carabal. Je suis technicienne cycle depuis juin 2020. Avant, j'étais monitrice éducatrice. C'est un métier en plein essor? Pauline Carabal. Oui, encore plus depuis le confinement et l'arrivée des vélos électriques. Le nombre de cyclistes a fortement augmenté, donc les réparations aussi. Ma clientèle est très diversifiée, vélo pour toute la famille, personnes seules, jeunes et moins jeunes. Quelques mots sur les déplacements à Saint-Cyr? Pauline Carabal. Pour accéder à Saint-Cyr, le cycliste doit être courageux et avoir un vélo en parfait état pour monter ou descendre la tranchée, la rue de la mairie, la rue de Portillon. On peut circuler en toute sécurité sur les grands axes grâce aux pistes cyclables. Les gars du vélo. Alexandre Riquet s'est spécialisé dans la réparation de vélos mécaniques et dans le recyclage de ceux destinés au rebut. Rien ne prédestinait ce Saint-Cyrien de 27 ans, graphiste de formation, à ce métier. Le vélo, une passion? Alexandre Riquet. J'aime plus l'objet que la discipline. Je collectionne les vélos vintage depuis quelques années, mais j'aime aussi les sorties et voyages à vélo. L'achat du neuf est-il délaissé? Alexandre Riquet. Oui, il est clair que de plus en plus de personnes préfèrent réparer ou faire réparer plutôt que de jeter et d'acheter du neuf. D'autres souhaitent remettre en état un vélo qui a une valeur sentimentale. Que pensez-vous des pistes cyclables saint-cyriennes? Alexandre Riquet. Rouler à Saint-Cyr est agréable. Les pistes cyclables suivent les grands axes. Cela se développe bien dans la métropole. Il faudrait les entretenir davantage car elles sont souvent déformées par les racines d'arbres. Elles occupent des trottoirs trop petits. Les revêtements sont parfois usés. Il faudrait aussi créer plus de parkings à vélo. Plus d'infos. Pauline Carabal, La Petite Boucle, 06 72 78 34 14, contact@lapetiteboucle.fr, www.lapetiteboucle.fr. Alexandre Riquet, Les Gars du Vélo, 06 09 86 02 91, lesgarsduvelo@outlook.fr, www.lesgarsduvelo.com. Page 36, Focus. Hommage. André Gorgues nous a quittés. La disparition d'André Gorgues le 3 octobre dernier a plongé de nombreux Saint-Cyriens dans la tristesse. Éminent professeur de droit constitutionnel à la faculté de droit de Tours et directeur de l'Institut de Touraine durant de nombreuses années, André Gorgues a consacré une grande partie de sa carrière professionnelle à ses chers étudiants. Il avait rejoint l'équipe de Philippe Briand en 1995 au poste d'adjoint à l'urbanisme, mission qu'il exerça avec beaucoup d'écoute et de pragmatisme jusqu'en 2008. Comme le souligne Philippe Briand, profondément marqué par sa disparition, André Gorgues était la marque de l'humanisme et de l'élégance. Ses obsèques ont été célébrées le vendredi 6 octobre 2023 en l'église Saint-Cyr Saint-Dulite. Les conseillers municipaux appelés aux urnes. Le 24 septembre dernier, près de 1544 grands électeurs se sont rendus aux urnes pour élire les trois nouveaux sénateurs d'Indre-et-Loire. Les élections sénatoriales permettent de renouveler la moitié des sièges du Sénat, soit 170 sièges tous les 3 ans. Dans chaque département, les sénateurs sont élus au suffrage universel indirect par un collège électoral. Le collège de grands électeurs est formé de députés, sénateurs, conseillers régionaux, départementaux et municipaux. Ainsi, l'ensemble des conseillers municipaux de Saint-Cyr-sur-Loire, grands électeurs, s'est rendu en préfecture pour voter parmi les 5 listes déposées pour l'Indre-et-Loire. Ainsi, Jean-Gérard Pommier, Vincent Louault et Pierre-Alain Roiron ont été élus sénateurs pour un mandat de 6 ans. Regard élu. Erratum. Une erreur s'est glissée dans le dernier numéro de Saint-Cyr Mag paru en juin 2023. Page 37, l'article intitulé « Le plan local d'urbanisme métropolitain » plume ne correspondait pas au titre. Il s'agissait d'un texte déjà publié dans le magazine de juin 2022. Vous trouverez ci-contre le texte qui avait été fourni par la liste en avant Saint-Cyr. Le plan local d'urbanisme métropolitain. Ce document d'urbanisme traduit un projet politique porté pour le territoire. Il en fixe les règles en matière d'habitat, de mobilité, de développement économique, d'environnement. Il se substituera en 2026 au document d'urbanisme saint-cyrien actuel. Les prémices de la rédaction du plus métropolitain sont en cours. Il faut être attentif car il y aura sans nul doute des répercussions sur notre qualité de vie dans la commune. Il en sera alors fini de la densification actuelle de l'habitat de Saint-Cyr-sur-Loire. Voulons-nous que la normalité de l'environnement urbain de certains quartiers de Saint-Cyr soit une succession de façades d'immeubles de 5 ou 6 niveaux implantées en limite de minuscules trottoirs arborés d'arbrisseaux maladifs? Il faudra être nombreux à exprimer nos attentes et nos propositions. Ce plume conduira à terme à la disparition de l'ADN pavillonnaire de notre commune et à son urbanisme malgré tout encore raisonné. Thierry Davot, élu de la liste en avant Saint-Cyr. Page 37. Regard élu. Saint-Cyr, une ville fidèle à ses valeurs. Le mois de septembre fut particulièrement chargé. C'est le mois de la rentrée, moment où les plus jeunes reprennent le chemin de l'école et celui des inscriptions aux activités sportives et de loisirs. Cet été, deux importants chantiers ont été menés, permettant aux écoles Périgourd et Roland-en-Gérant, Charles Perrault, de profiter de rénovations importantes. Avec près de 900 000 euros inscrits au budget, la cour de récréation du second groupe scolaire s'est transformée en vrai cour-jardin. Un aménagement qui permet aux écoliers d'évoluer dans des conditions particulièrement favorables et de répondre aux défis climatiques. Une rentrée chargée avec l'organisation de la journée des inscriptions le 9 septembre dernier. Nous savons combien vous êtes attachés à ce moment important dans la vie associative saint-cyrienne. Nous tenons une nouvelle fois à remercier les associations présentes et bien entendu l'ensemble des bénévoles qui vous accompagnent dans vos activités, qu'elles soient sportives, artistiques ou récréatives. L'engagement auprès des autres ne se décrète pas. Il se vit jour après jour avec une belle énergie communicative. La majorité municipale est particulièrement fière du partenariat que la ville a su créer avec son tissu associatif, à l'image aussi de la deuxième vie du livre qui s'est tenue le 17 septembre dernier. Enfin, il serait impossible de clore ce texte sans évoquer l'inauguration de l'espace Jacques Chirac qui s'est déroulé le 30 septembre. L'ancienne mairie, ce lieu emblématique de la vie saint-cyrienne, a désormais un nom, celui de l'ancien président de la République. Jacques Chirac, l'homme qui, bien au-delà de la dimension politique, a eu une grande passion pour la France et les Français. Saint-Cyr-sur-Loire se devait, par la voix de son maire, Philippe Briand, de lui rendre un tel hommage en présence de sa fille, Claude Chirac, mais également de François Baroin, Christine Lagarde, Bernard Accoyer, Christian Jacob, Renaud Muselier, et de toutes celles et ceux qui ont su accompagner sa passion pour la France. Après des discours remplis d'émotions et de souvenirs, Philippe Briand et ses invités ont pu apprécier les œuvres de Jean-Pierre Blanchard et Michel Audiard. Une façon d'inscrire, s'il était encore nécessaire, Jacques Chirac dans le cœur des Saint-Cyriennes et Saint-Cyriens. Les élus de la liste Saint-Cyr, notre cœur, notre force. Sobriété. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Cette phrase, prononcée par Jacques Chirac au 4e sommet de la Terre à Johannesburg en 2002, est restée gravée dans nos mémoires. À chacun des conseillers municipaux et métropolitains, nous voyons nos élus regarder ailleurs. Hélas. Rien ne se fera sans sobriété. Sobriété dans l'étalement urbain, sobriété dans l'utilisation de l'eau, de l'énergie, de notre consommation domestique. Toutes les bonnes actions se heurtent à la fois au « pas chez nous » et au refus des contraintes personnelles. Même si, pour les générations futures, la solution passe par l'école, cela ne nous dédouane pas d'actions immédiates. Pour sortir notre métropole de l'utilisation des énergies fossiles, il nous faut un vrai RER métropolitain, reliant les villes moyennes du département, des lignes de tram entre les zones résidentielles et d'activité, un schéma cyclable complet et une politique ambitieuse de rénovation thermique des bâtiments. Le meilleur exemple du « on regarde ailleurs » reste le traitement des déchets. Nous ne disposons toujours pas d'un incinérateur dans l'agglomération. Chaque commune l'imaginant chez son voisin. Reconnaissons que le sujet n'est pas électoralement porteur. De même que chaque citoyen pense que sa poubelle n'est plus son problème une fois déposée sur le trottoir. La prise de conscience est bien là aujourd'hui. Il nous faut l'accompagner et ne pas relâcher les efforts. Vous pouvez compter sur la vigilance des élus de l'opposition municipale. Les élus de la liste Saint-Cyr pluriel. ZFE, zone à faible émission. D'ici 2025, pour répondre à la volonté gouvernementale, la métropole et la commune de Tours envisagent d'installer une ZFE sur un périmètre non encore arrêté. Il me semble important d'évoquer avec vous les conséquences financières que supporteront les classes populaires résidant en périphérie, qui sont obligées d'utiliser leurs véhicules pour leurs déplacements personnels et ou professionnels. Bien que louable et compréhensible, cette volonté dogmatique s'oppose à la réalité d'une exclusion des classes populaires. Malgré la forêt des aides financières nationales ou locales envisagées, le différentiel reste trop onéreux pour les plus faibles de nos concitoyens. Le marché des véhicules électriques est encore techniquement et économiquement perfectible. Les infrastructures de recharge restent encore insuffisantes. Tenons compte des expériences de nos voisins allemands, dont certaines villes commencent à renoncer à leur ZFE, au motif d'une exclusion des classes modestes. Thierry Davot, élu de la liste, en avance un cire. Page 38-39. En images. Coup d'envoi le 28 septembre dernier pour une saison culturelle placée sous le signe de la femme artiste, qu'elle soit autrice, comédienne, danseuse, musicienne ou marionnettiste. Dimanche 17 septembre, la deuxième vie du livre a réuni de nombreux visiteurs à la recherche de pépites littéraires ou désireux de profiter de l'écrin de verdure qu'est le parc de la Tour. Théâtre, cirque, création chorégraphique collective, ateliers pour les plus jeunes, concerts, petite restauration, tous les ingrédients étaient réunis pour cette nouvelle édition de Quartier d'été. Près de 80 associations et des bénévoles passionnés étaient réunis pour cette journée des associations. Après avoir été restaurée, l'œuvre de Marin Casimir, Trois toits pour Saint-Cyr, a retrouvé sa place dans le parc de la Pérodière le 11 juillet. Samedi 16 septembre, l'inauguration de la maison de quartier Denise Duplex a eu lieu en présence de cette grande dame née à Saint-Cyr-sur-Loire en 1927. La Borne, mini-galerie d'art contemporain, s'est posée au parc de la Clarté, à proximité de l'école de musique. Un lieu unique à découvrir jusqu'au 7 novembre. Dimanche 24 septembre, ils étaient plus de 600 à prendre le départ du parcours des 10 km de marche nordique qui passe au cœur du parc de la Pérodière. Une nouvelle opération de déminage a été menée avec succès le 12 octobre. Une bombe américaine de 500 kg a quitté le lit de la Loire, où elle sommeillait depuis 1944. Magazine édité par la ville de Saint-Cyr-sur-Loire, commune de Tours Métropole Val-de-Loire, numéro d'ISSN 2495 87 00. Directeur de la publication Philippe Briand, rédacteur en chef Benjamin Girard, rédacteur Hélène Charles et Mélanie Merlot, crédit photo 1 Charles Bury, crédit photo Service communication, FreePic, Pixabay sauf mention spéciale. Portrait du conseil municipal, David Darrault. Conception et mise en page, Audaciosa. Impression, Imprimerie Vincent. Tirage, 10 500 exemplaires. Contact, communication, @saint-cyr-sur-loire.com. Imprimé sur du papier issu de forêts gérées durablement.